As the head of the church, Jesus Christ,
en tant que le chef de l'Église, Jésus-Christ donne des avertissements très sérieux aux sept églises dans Apocalypse 2 et 3. Nous avons étudié cette série de sermons sur les sept églises et nous avons examiné ce que ce message voulait dire pour eux à l'époque. Pas seulement nécessairement décider sa signification prophétique, on fera cela plus tard, mais ce que cela signifiait pour les gens de l'époque, ce que nous avons examiné, ce que nous connaissons de ces gens-là à partir de la Bible ou d'autres sources historiques, et nous essayons d'examiner ce que ces gens étaient, comment ils étaient, quels étaient leurs problèmes et leurs points forts, et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, c'était très personnel lorsqu'ils ont reçu ces lettres, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux quand ils ont reçu ces lettres ? Ces églises que nous avons parcourues jusqu'à présent, nous savons que 5 d'entre elles ont reçu des avertissements sérieux en tant que Jésus-Christ de la part de Jésus-Christ en tant que chef de l'Église, qui commençait par une description que Jésus-Christ donne de lui-même. C'est cela qui est intéressant, je trouve, de prendre tout un sermon entier pour traiter de toutes ces introductions que le Christ révèle sur lui-même, à nous et aux sept églises. Il a dit à ceux de l'église d'Éphèse de se repentir et de revenir à leur premier amour, à moins que j'enlève ton... vous savez, c'était une église qui, doctrinement, ils étaient corrects. Ils avaient tout ce qui... Ils n'avaient pas permis aux fausses doctrines d'entrer dans l'église. Pourtant, ils avaient perdu leur premier amour. Et il dit, si vous ne vous répondez pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Autrement dit, tu ne serais pas mon église. Il dit à Pergame de se repentir, à moins qu'il va revenir. Et il dit qu'il les combattrait à Pergame avec l'épée de sa bouche, s'ils ne se repentent pas. Et vous savez que, sauf pour Smyrne, c'était la seule église qui n'a pas reçu un avertissement. Ils ont simplement reçu l'instruction de retenir la vérité malgré leur grande pauvreté et la persécution. Ah, très bien, la seule église qui n'a pas de correction est celle qui était tuée et persécutée. Il a parlé à l'église de Thyatire que s'il ne se repentait, il tuerait ses enfants. Cela ne s'adressait pas au monde, ce n'est pas à la bête, c'est les paroles de Jésus-Christ adressées à son Église, à nous. Et si on lit tout cela, parfois on choisit un peu ce qu'on veut et ce qui nous intéresse dans ces Églises et on manque le point important. Pour l'Église de Sardes, il leur a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, qu'il ne serait pas prêt parce qu'ils étaient morts. Et à Philadelphie, il lui dit de retenir ce qu'il a, de ne pas permettre à quelqu'un de prendre sa couronne. C'était le problème de Philadelphie. Les gens s'offendaient facilement les uns les autres ou commençaient à ne pas se traiter bien les uns les autres et ils laissaient d'autres gens prendre leur couronne. Ce n'était pas nécessairement des fausses doctrines ou l'immoralité que certaines églises avaient connues, mais c'était des problèmes interpersonnels. Et il leur dit de s'assurer qu'ils ne laissent pas quelqu'un prendre leur couronne. Et nous en arrivons à la dernière église sur la liste, l'église de Laodicée. Tout comme Philadelphie, c'était une ville plus récente. La ville de Laodicée, environ 350 ans lorsque Jean leur a écrit la ville de Laodicée. Vous direz 350 ans, c'est beaucoup de temps, mais pour l'époque, en comparaison avec d'autres villes de l'Asie mineure, c'était une ville relativement jeune. Leur nom, Laodicée, est le nom d'une femme. Il y avait un roi grec qui avait nommé cette ville après sa femme qui était décédée, qui s'appelait Laodicée. Ils étaient connus pour 3 choses. C'était un centre bancaire. L'argent affluait et sortait de la ville. Aucune des autres villes était des centres bancaires. C'était des centres commerciaux parfois, mais pas un centre financier, non pas nécessairement un centre financier. C'était célèbre. Elle était célèbre parce que tout autour de la ville de Laodicée, ils élevaient un type de mouton qui avait de la laine noire. Et ils utilisaient cette laine pour faire des tissus et des habits qu'ils exportaient à travers l'Empire. C'était de la laine noire et ils l'exportaient et ils étaient devenus riches. C'était l'une des façons. Ils étaient aussi connus comme un centre médical. Ils produisaient deux choses qu'ils exportaient à nouveau. C'était un baume pour les yeux et un autre pour les oreilles. Et ils exportaient ça à travers le monde de l'époque. Et à l'époque de Laodicée, sur les effigies, il y avait souvent sur leurs pièces de monnaie, il y avait souvent une effigie de César. Mais ils pouvaient avoir des personnes locales également. Ils ont trouvé dans la ville de Laodicée des pièces avec l'effigie de leur docteur. Donc c'était un centre médical et ils avaient des docteurs très très fameux. Le message. Donc, reportez-vous à Apocalypse 3 et examinons le message à l'église de Laodicée. Que pouvons-nous apprendre sur ces gens de Laodicée, les premières personnes qui ont reçu cette lettre, et déterminer ce qui est important pour nous, parce que souvenez-vous que toutes les églises sont supposées écouter et lire tous les messages écrits à toutes les autres églises. À travers les âges. Ces attitudes sont et peuvent et sont se trouver dans l'Église de Dieu à n'importe quel moment. J'ai eu des congrégations en tant que pasteur, je vous assure que j'ai vu ces attitudes, les plus et les moins, les points forts et les défauts de plusieurs de ces églises à travers une seule congrégation. Par exemple, certaines églises plutôt étaient, ils se sont développées différemment. Certaines églises avaient leurs propres problèmes et leurs défauts. Certaines étaient complimentées par Jésus pour leur foi et leur service, mais ils avaient des actions corrompues également. Jésus se révèle donc au début, il écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, voici ce que je suis, le témoin véritable, fidèle et véritable, principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si vous arrêtez pour penser à ça, c'est une image un peu bizarre. Vous êtes ni froid ni bouillant, je vais te vomir. C'est un avertissement qui me fait peur. Autrement dit, je vais te rejeter de mon corps, le corps du Christ. Alors, la menace ici, c'est que vous pouvez vous retrouver en dehors du corps du Christ parce que vous êtes ni chaud ni froid. Au fil des années, j'ai lu beaucoup d'explications de ce que cela voulait dire et j'ai écouté beaucoup de sermons, que ce soit dans la radio, l'Église de Dieu radio ou même l'Église universelle de Dieu dans le passé, ce que ce chaud et ce froid voulaient dire. Et parfois, les gens, l'explication était que si vous êtes tiède, ça veut dire que vous ne faites pas vraiment attention, vous êtes comme des automates, un peu comme des zombies, sans faire vraiment attention, je vous souciez vraiment de ce qui se passe. Mais nous, si vous vous souvenez, cela décrirait plutôt Sardes, l'église morte, où ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mourir. Lorsque je regarde ce passage maintenant, et nous allons étudier plus en profondeur, qu'est-ce que cela signifie froid et bouillant? Parce que j'ai dit dans un autre sermon que les Laodicéens n'avaient pas des récits comme les autres églises. Et quelqu'un est venu me voir en me disant « Mais ils avaient bien sûr des récits. » Oui, bien sûr, ils avaient des problèmes, mais ils n'avaient pas l'hérésie des Nicolaïtes, par exemple, ou de la religion de Balaam. Quel est donc leur problème? Est-ce qu'ils sont l'Église morte? Non. Qu'est-ce que ça veut dire d'être tiède? Si vous considérez une autre explication possible, et nous allons l'examiner, si vous regardez au livre de Colossiens, la ville de Colosse n'était pas très loin de Laodicée. C'est environ 20 kilomètres et Aéropolis était environ 10 kilomètres loin de Laodicée. C'était deux villes proches, ces trois villes étaient proches l'une de l'autre. Mais Laodicée n'avait pas de réserve d'eau. Il n'y avait pas un lac ou il n'y avait pas une rivière. Il y avait de l'eau, mais pas suffisamment pour une ville qui grandissait. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient de l'eau provenant de Colosse et d'Ariapolis. C'est ce que les Romains étaient très bons à faire. Ils ont créé les aqueducs. Et si vous pensez, à transporter de l'eau pendant 10 kilomètres pour passer à travers des vallées et des petites montagnes, ils ont bâti les aqueducs de façon à ce que s'ils étaient bâtis d'un côté, ça poussait l'eau en avant et pour en arriver, pour autant que l'eau était pompée de l'autre côté, ça passait sur ces aqueducs et Colosse était à environ 20 kilomètres. Ils amenaient donc de l'eau. Les personnes riches avaient des capacités d'avoir de l'eau directement dans leur maison. Les eaux venaient de deux sortes d'eau. L'une était une eau très froide et l'autre était une eau très chaude. Probablement des sources minérales qui sortait de la terre. Et l'eau qui sort directement du sol n'est pas toujours très bonne, a un goût un peu différent. Et l'eau froide, l'eau chaude, qui passe pendant des kilomètres sur des aqueducs et qui était arrivée dans ces espèces de piscines à Laodicée, ça s'était renommé pour avoir vraiment mauvais goût. C'était tiède. Ça n'avait pas bon goût après avoir passé sur la pierre pendant des kilomètres. C'est pour ça que cette image de vomir avait probablement un écho pour les gens de Laodicée, parce que peut-être que parfois, quand ils goûtaient leur eau, probablement ça leur donnait envie de vomir. C'était inscrit dans les données historiques que cette eau n'avait pas du tout bon goût. J'ai entendu un sermon où chaud voulait dire vraiment zélé pour la parole de Dieu et froid voulait dire pas converti. Le problème avec ça, c'est que si j'avais une grosse bouchée d'eau chaude, je devrais le rejeter immédiatement de ma bouche parce que ça me brûlerait. Donc, on peut faire des analogies qui marchent dans notre tête, mais moi j'essaye de comprendre ce que ça voulait dire pour ces gens à l'époque. Ils le rejetaient simplement parce que ça avait un mauvais goût. Si vous allez pour des conditions de santé, vous allez dans des sources thermales chaudes, c'est agréable, n'est-ce pas? Mais si vous le mélangez avec de l'eau froide, c'est tout ce qu'ils avaient à boire, mais ça n'avait pas bon goût. Donc, nous devons comprendre ce que cette tiédeur signifie. Pourquoi est-ce qu'il décrit cela comme de la tiédeur? Allons au verset 17. Souvenez-vous, je te vomirai de ma bouche, je vais te rejeter. C'est ça, vraiment pas bon goût. Leur réaction du Christ, c'est que tu as mauvais goût dans ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il serait facile de retrouver un Laodicéen si vous voulez chercher quelqu'un qui est tout nu et qui est riche et aveugle. Mais bien entendu, ce n'est pas une description physique, nous comprenons très bien cela. Spirituellement parlant, ils se considéraient eux-mêmes et disaient « Je suis pas mal, je suis riche, je peux voir, j'ai des vêtements de justice. » Et voilà leur problème, la propre justice. Et il y a plein de livres qui ont été écrits et de sermons qui ont été faits à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont compris quand ils l'ont lu ? La chose qui leur sauterait aux yeux, c'était le problème, c'est comment est-ce qu'ils se voyaient eux-mêmes. Le problème de l'Odyssée, c'est comment est-ce qu'ils se considéraient, comment est-ce qu'ils se voyaient eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont riches, ils se trompent eux-mêmes. Ce n'est pas comme à Sardes où vous rentrez dans l'église où vous vous dites « Ces gens ne sont pas tellement différents du monde, ils sont à moitié endormis. Vous allez à leur assemblée, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas un bon message, les gens ne parlent même pas de Dieu, ils parlent de ce qui se passe à leur travail, il n'y a pas vraiment de camaraderie. » Non, ça c'est Sardes, ce n'est pas l'Odyssée. L'Odyssée, c'est ils comprennent et ils pensent qu'ils sont vraiment bien, qu'ils ont bien saisi tout ce qu'il fallait faire. Ils connaissent les versets, ils connaissent ce qui est bon. Et Dieu les regarde et le Christ dit « tu es tout nu ». En fait, c'est très intéressant dans ce que dit Jésus ici. La chose qu'ils étaient célèbres, c'était leur centre bancaire, donc. Ils étaient célèbres pour leurs vêtements de laine. Et Dieu dit, vous êtes connus pour ça, mais moi je vous dis, vous êtes nus. Et il leur dit qu'ils sont aveugles, alors que dans leur ville, ils fournissaient des baumes pour les yeux. Et c'est important pour nous de comprendre que le Christ attaque l'orgueil de leur ville. À nouveau, ils savent qu'il n'y a rien de mal envers eux. Ils font bien. Ce n'est pas possible qu'ils soient pas bien. Ce que nous voyons, ce sont des gens qui sont extrêmement autonomes et autosatisfaits lorsqu'ils regardent leur propre justice, leur justice. Et ils auraient l'apparence aux autres. Ils auraient l'apparence d'apparaître parfaits. Comment est-ce que j'aurais pu comprendre la Odyssée? Est-ce que vous auriez pu discerner cette attitude en rentrant dans leur assemblée? Non, probablement pas. Vous les verriez, vous direz, ah ben ça, c'est des gens solides. Et dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Vous voyez ce qu'il attaque, les trois choses qui sont célèbres dans leur ville. Les vêtements blancs, alors qu'ils sont célèbres pour faire des vêtements noirs. Ils sont un centre bancaire, et ils font des colliers pour les yeux. Ils étaient très fiers d'être laodicéens dans leur communauté. Ils avaient une ville vraiment bien. Et je pense que cela est important pour nous, pour les Américains, parce que parfois on impose dans la Bible des idéaux américains qui ne sont pas vraiment épelés comme ça dans la Bible. On pense que nos valeurs américaines sont les meilleures parce que c'est un bon endroit à vivre et etc. C'est un bon endroit à vivre, c'est vrai, mais il faut faire très attention que juste parce que nous avons certaines personnes ont des richesses ou parce que l'Amérique est encore puissante ou la science dont nous sommes fiers, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'on impose nos valeurs dans ce qui est dans la Bible. Et qu'on mélange nos valeurs avec celles de la Bible, Dieu attaque l'orgueil de leur ethnicité, de leur ville, de leur localité. Dieu leur dit non, vous n'êtes pas riches spirituellement, vous êtes pauvres. Et vous pensez que vous pouvez voir mieux que les autres, et à mon avis, vous êtes complètement aveugles. Au verset 19, donc. Il dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette affirmation ici, nous pouvons la lire trop vite et complètement manquer ce que Jésus-Christ dit. Voici l'Église. D'un groupe de gens qui pensent avoir bien réussi, avoir tout pour eux. C'est la façon dont l'Église de Dieu devrait ressembler. C'est ce qu'ils pensent. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ n'est plus dans l'Église. Il est en dehors de l'Église et il frappe à la porte et ils ne peuvent même pas l'entendre parce qu'ils s'entendent très bien entre eux, ils ont tellement du bon temps, ils ne peuvent pas entendre que le Christ est en dehors du bâtiment et qu'il frappe à la porte. Il essaye d'entrer, il n'est même pas dans la maison. C'est l'image que Dieu nous donne de son église de Laodicée. Et c'est pour ça qu'il leur donne une condamnation aussi forte, qu'il va les corriger. Leur condamnation n'est pas aussi forte que certaines autres églises. Certaines églises, Dieu dit qu'il va tuer leurs enfants. Mais toutefois, le Christ leur dit, je vais vous corriger parce que vous allez devoir changer et vous repentir. Les Laodicéens pensent qu'ils sont spirituellement autonomes et complets. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous pensez que vous avez bien compris tout ce qu'il fallait faire? Vous regardez les autres en jugeant et en disant « Ah ben cette personne, elle a un problème, c'est la nature humaine. Cette personne a des problèmes et cette personne, elle fait ça comme ça, moi je ne ferai pas ça comme ça, ils n'ont pas vraiment compris. Ils ne savent pas ce que moi je sais, ils ne sont pas aussi justes que moi, ils ne sont pas aussi stricts que moi, ils ne sont pas aussi bien que moi. » Je veux vraiment mettre l'accent sur ce point parce que cela ne veut pas dire qu'on accepte les péchés les uns les autres. En fait, nous sommes supposés aller confronter quelqu'un qui a un gros problème. Si quelqu'un est alcoolique, par exemple, en tant que frère, nous sommes supposés aller lui parler et essayer de les ramener sur le bon chemin. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ignorons les péchés des uns les autres ou que nous ignorons ce qu'est le péché dans le monde. Vous pouvez dire, ah, on aime tout le monde, alors ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Et c'est le christianisme du nouvel âge qui dit que ce qu'on fait n'a pas d'importance. Et n'importe qui a lu Matthieu, Marc, Luc et Jean savent très bien que c'est l'opposé de ce que le Christ a enseigné. Parce que soit ce que Jésus-Christ a dit est vrai, ou bien alors il est fou. Les chrétiens, parfois, lisent ce que dit Jésus et l'interprètent d'une façon complètement différente. Il a condamné certaines choses, il est le Fils de Dieu, et il est la seule façon d'arriver à Dieu. Et maintenant, dans le christianisme du Nouvel Âge, ils vous disent que tous les chemins mènent à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que le Christ a dit. Il a dit qu'il était le chemin et la vie, qu'il était le seul par lequel on pouvait être pardonné et qu'on pouvait être sauvé. Soit il a dit ce qu'il a dit et c'est vrai, ou bien alors il était fou. Et ce qu'il dit aux églises ici, c'est que les Laodicéens regardent à tous les autres chrétiens et ils se mesurent les uns les autres, ils se comparent les uns les autres parce qu'ils sont tellement autonomes spirituellement et très satisfaits de leur propre état spirituel. Être autonome est une bonne chose pour travailler, pour bâtir un pays avec des gens qui sont forts et qui sont autonomes, c'est bien. Mais spirituellement, vous ne pouvez pas être autonome. La même définition même d'être spirituel empêche le fait qu'on soit autonome, parce qu'on doit dépendre de Dieu, c'est la seule façon de le faire. Vous et moi ne sommes pas autonomes spirituellement. Que savons-nous sur la Odyssée ? Pas grand-chose. On pourrait commencer à voir quels étaient leurs gouverneurs et quelles étaient leurs armées qui ont envahi la Odyssée. Mais dans Colossiens, chapitre 4, nous reviendrons dans l'Apocalypse vers la fin. Colossiens, chapitre 4, verset 16. Souvenez-vous que la ville de Colosse n'est pas très loin. C'est environ 60 ans après la mort de Jésus-Christ, 60 ans après Jésus-Christ. Ce n'est que 40 ans plus tard que Jean a écrit l'Apocalypse. Donc, nous revenons en arrière dans le temps ici. Paul écrivit aux Colossiens 40 ans avant la révélation de Jean dans l'Apocalypse. Et il les dit, « Salut les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Nous n'avons, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église de Laodicéen. Nous voyons que ces lettres devaient être lues aussi bien à Colosse qu'à Laodicée. » Nous n'avons pas cette lettre en notre possession. Elle n'a pas été préservée apparemment. Mais nous pouvons, en lisant la lettre qui a été écrite à Colosse, commencer à avoir un aperçu des problèmes qui ont pu toucher la Odyssée. Historiquement parlant, nous pouvons revenir en arrière en disant qu'il y avait des failles fondamentales dans l'église de Laodicée, 40 ans avant que Jean écrive. Et à un moment où Jean a écrit l'Apocalypse, ces problèmes avaient probablement augmenté. Si vous vous reportez à Colossiens, c'est une lettre intéressante que Paul a écrite. C'est très concis. Certaines de ces écritures ne sont pas si précises que ça. Si vous allez au verset 1, vous verrez que le chapitre 1 de Colossiens, c'est un chapitre qui explique de façon très complète ce que Jésus-Christ. Il fait quatre points importants dans Colossiens 1. Tout d'abord, Jésus-Christ est le premier-né des morts. Jésus-Christ est le Créateur. Il a existé avant de venir sur la terre. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il met l'accent là-dessus. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai demandé de vous rappeler que l'Église de Philadelphie avait la clé de David, c'est-à-dire qu'ils se soumettaient à l'autorité de Jésus-Christ dans leur ville. Il se peut, d'après l'Épître aux Colossiens, que l'église de Colosse ne comprenait pas bien le rôle de Jésus-Christ et l'importance de Jésus-Christ. Et on peut assumer par conséquent que Laodicée avait des problèmes similaires puisque Paul voulait que cette lettre soit lue à Laodicée également. Il introduit ici l'idée que Jésus-Christ est un mystère. Le mot « mystère » est un mot important dans la culture grecque parce qu'il y avait des concepts du gnosisme qui s'infiltraient dans l'Église. Les Grecs pensaient que le fondement de l'éducation était la connaissance. Et les Juifs avaient le concept que le fondement de l'éducation était la sagesse. Il y a une différence entre les deux. Ce sont deux approches différentes. Les Grecs disaient que c'était la connaissance qui était le fondement de tout. Et le plus vous avez de connaissances et le plus de connaissances secrètes vous avez, le meilleur le chrétien sera. Le plus de compréhension et de connaissances vous avez, même si vous faites partie d'un groupe très sélectif, vous pouvez vous dire, il faut faire partie de cette église chrétienne, des 50 personnes qui sont là. Et vous pouvez vous dire, oui, mais moi, je fais partie des 8 personnes dans cette congrégation qui comprennent vraiment la vérité. C'est ça le problème avec la connaissance, avec gnosis. lorsque vous basez tout sur vos connaissances. Dans Colossiens 2, verset 1, Paul dit, Colossiens 2, verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage. À cause de ce qui se passait, il se faisait du souci, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour. » Au verset 4, pardon, « Je dis cela, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Il dit, il y a des gens qui vont venir, qui vont vous séduire, qui vont vous tromper. Au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Jésus-Christ. Il nous ramène toujours au mystère de Christ, la chose centrale, la plus importante. Mais on ne sait pas pourquoi, mais à Colosse, et probablement à la Odyssée également, à cause de ce qui est dit, le Christ n'était pas suffisamment. Il y avait un mystère important qu'il pensait ne pas savoir. Voyez-vous, ils étaient influencés par la culture grecque qui pense que la connaissance était ce qu'il y avait de plus important. Ils recherchaient une compréhension plus importante de ce qu'ils avaient reçu. Il est donc très intéressant parce que si nous en revenons au verset 16, nous allons pas les lire le verset 16 et 17 comme nous le lisons normalement dans le contexte de prouver que cela, souvent ce passage de verset 16 et 17 est utilisé dans le monde protestant pour prouver que soi-disant on n'aurait plus besoin de garder le sabbat et les fêtes. Mais c'est une partie importante de comprendre ce que ça veut dire. Il est bien évident que pour que ces commentaires soient faits, c'est parce que les gens observaient le sabbat et les jours saints. Et ces commentaires ici, c'est le problème véritable, c'était le jugement qu'ils se faisaient les uns les autres. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Si on vous dit que vous n'avez pas besoin de garder le sabbat ou les jours saints, en grec, ce mot manger ou boire, c'est quelque chose d'actif, comme les fêtes ou le sabbat. C'est quelque chose que les gens pratiquaient, qu'ils faisaient. Le point central, c'est le fait de ne pas juger. C'est son sujet ici, que personne donc ne vous juge. Ça ne veut pas dire qu'il ne juge si vous gardez le sabbat ou pas. C'est pas ça que ça dit. Ça dit que personne ne vous juge sur la façon, au sujet de la façon dont vous mangez, la façon dont vous buvez, la façon dont vous gardez les fêtes, la façon dont vous gardez le sabbat, etc. Il parlait d'une attitude de jugement des autres. Il dit que personne, au verset 17, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Le problème ici est la fausse humilité, le culte des anges et le sentiment qu'on est tout bien comme il faut, qu'on sait des choses mieux que les autres, qu'on est plus intelligent, on est plus fort spirituellement que les autres, parce qu'on a des connaissances que les autres ne comprennent pas. Nous aurons toujours des difficultés à déterminer la différence entre ce que Dieu nous demande et ce que nous imposons, aux gens, dans l'interprétation de sa loi. Il est important de ne pas imposer nos idées sur tout le monde. Je me souviens, il y a des années, quelqu'un est venu vers moi en me disant « Je ne peux pas chanter la lutte suprême. » C'est un cantique méchant qui parle de la guerre. Alors je lui ai dit ne le chantez pas, ne vous en faites pas, c'est pas grave si cela vous ennuie, si cela est joué à l'Assemblée, il faut respecter votre conscience, ne chantez pas ce chant. Et il a dit non, tout le monde doit s'arrêter de le chanter. Je ne peux pas être dans une église où on chante ce cantique. Alors elle est partie. C'est pour cela que c'est cela, la fausse humilité. Je sais ce qu'il y a de mieux parce que j'ai raison devant Dieu, j'ai raison, je sais exactement ce que je fais, mais c'est quelque chose que les passages de la Bible ne disent pas vraiment, mais c'est en quelque sorte, les gens font en sorte qu'ils veulent imposer leurs propres critères sur tout le monde. Si la Bible vous dit quelque chose de clair et net qui vient de Dieu, je vais vous le dire et je vais développer le principe. Mais il y a certaines choses pour lesquelles c'est à vous de prendre votre propre décision basée sur la sagesse et votre conscience. Les gens me posent tout le temps cette question. Est-ce que je devrais faire ça? Alors je discute de leur processus de décision et pour les aider à voir ce qu'ils veulent faire. Cela arrive souvent. Quelqu'un m'a dit, j'ai un produit pour nettoyer mon four qui a un genre de levain dedans. Est-ce que je devrais le jeter pour les jours des pains sans levain? Et ma réponse est, est-ce que vous avez l'intention de le manger? Ah non, ça me tuerait. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même l'impression que je devrais le jeter de chez moi. Ce qui n'est pas de la foi est un péché. Je vais t'aider à aller le jeter. Ce n'est pas de problème si vous voulez le jeter. Mais vous ne pouvez pas forcer les autres à jeter leur nettoyeur de four. Ils n'ont pas l'intention de le manger. Et si quelqu'un ne veut pas jeter son produit pour nettoyer le four, personne ne devrait être fâché à cause de ça. Et personne ne devrait juger les autres à cause de ça. Nous ne pouvons pas juger à ce niveau-là. Si vous connaissez quelqu'un qui, par contre, si vous connaissez quelqu'un qui crée des disputes dans l'assemblée en causant des rumeurs, là vous devez adresser le problème avec quelqu'un qui cause des rumeurs dans l'église parce qu'il y a des instructions bibliques très spécifiques à ce sujet et concernant le fait de ne pas créer de division. Les gens ne sont souvent pas contents avec moi parce que je ne veux pas prendre leurs décisions pour eux. Est-ce que je devrais me faire vacciner? Ma réponse est personnellement, je voudrais éviter de prendre des vaccinations qui ont des souches de fœtus. Il y a peut-être un problème moral là-dessus. Est-ce que je devrais les prendre? Et les gens me disent, est-ce que moi je devais les prendre? Et je leur dis, c'est votre opinion, c'est pour moi, pour ma conscience, ça me dérange, mais c'est juste mon opinion, je ne suis pas un médecin. Si ça ne vous dérange pas, votre conscience, c'est à vous de prendre cette décision. Certaines personnes le font, certes d'autres personnes ne le font pas, et on ne peut pas se juger là-dessus. Mais à l'Odyssée, ils le feraient. Ils se jugeraient les uns les autres comme si c'était des gens mauvais pour prendre leurs propres décisions selon leur conscience. Voilà l'attitude. Ils étaient riches, ils pensaient qu'ils savaient tout. Et beaucoup de commentaires manquent ce qui est évident. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de conseils. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ils avaient des connaissances spéciales. Le culte des gens a toujours été un petit peu un problème dans certaines églises au fil des ans dans l'histoire. Il y avait des situations où les gens essayaient de parler aux anges ou de prier aux anges. Et les gens m'ont dit, un ange a aidé mon fils à faire un but dans son match. Il y a un film là-dessus, on voyait des anges qui aidaient un joueur. Je n'ai jamais vu ce film-là, mais je me souviens, mon fils l'avait vu ce film. L'un des problèmes que l'on voit dans ce que nous avons lu avec la Odyssée et Colosse, si vous lisez toute l'épître de Colossiens, vous savez la conclusion de la chose. C'est « Laissez-moi vous montrer comment vous êtes vraiment une nouvelle personne en Christ. » C'est là la fin et la conclusion de cet épître. « Laissez-moi vous décrire de façon pratique en décrivant le mariage. » par exemple. C'est cela le christianisme. Il leur montre comment être une nouvelle personne, comment changer. Et bien entendu, cela inclut obéir à la loi de Dieu. Donc nous voyons que cela est écrit en 60 après Jésus-Christ et Jean, 40 ans plus tard, écrit ces choses. Parce que nous voyons ces choses de Laodicée décrites pour ce qui est de l'église de Colosse. Ils se jugeaient les uns les autres. Ils croyaient en Jésus-Christ, ils chantaient des cantiques à Jésus-Christ, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas à quel point le Christ était central au niveau du Créateur, qu'il était le premier-né des morts, le chef de l'Église. Comment est-ce que son sang nous réconciliait à Dieu le Père? Toutes ces choses dont on parle et qu'on met ensemble pour aller vers le royaume de Dieu. Tous les jours saints, donc, montre la centralité du rôle du Christ dans le plan de Dieu vers le royaume. Mais à Laodicée, ils avaient perdu de vue cela. Ils étaient satisfaits de leur propre justice, de leur connaissance, et ils se jugeaient les uns les autres. Cela ne venait pas d'une attitude négligente, d'une attitude qui disait qu'ils ne se souciaient pas. Ça venait d'une attitude qu'ils étaient beaucoup de propre justice. Donc, ils jugeaient les autres et à cause de ça, ils causaient un manque d'unité dans l'Église. Il ne devrait pas avoir ce manque d'unité. Bien sûr, il y aura un certain manque d'unité si nous croyons que quelqu'un commence à dire qu'on n'a pas besoin d'observer le sabbat parce que ça, c'est une fausse doctrine. Donc, évidemment, cela causerait des disputes. Mais ils croyaient en des connaissances secrètes qui les rendraient mieux que les autres. Si vous voulez vraiment rendre cela de façon claire et succincte, il y a une parabole que le Christ a donnée qui décrit cette attitude exactement. Et j'ai lu ça dans un sermon il y a quelques mois, dans Luc 18. Je n'avais pas eu l'intention de la lire dans ce sermon, mais je ne pouvais pas trouver une description meilleure de l'attitude de Laodicée. Et je n'ai fait qu'effleurer la surface du livre de Colosse. Vous devez le lire vous-même. Mais c'est un message à Laodicée, 40 ans avant que Jean n'écrive. Et les problèmes qui étaient à Colosse se trouvaient également à Laodicée, d'après ce qu'on lit. Si nous avons une lettre qu'ils sont supposés à lire, n'est-ce pas, les Colossiens, et que Laodicée devait la lire, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle ils devaient la lire. Reportez-vous à Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, verset 9. C'est Jésus qui parle ici. Et Luc fait un petit commentaire. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Nous voyons leur motivation. Luc dit cela, et c'est intéressant parce que si je vivais en Judée au 1er siècle, et Jésus commençait cette parabole, à moitié dans cette parabole, je penserais qu'il me donnerait le parfait exemple d'un homme bon, et juste, et j'aurais connu des gens comme ça. Autrement dit, il décrit quelqu'un, un pharisien, qui obéissait à la loi. Et au milieu de la parabole, il change complètement de direction pour montrer qu'il parle des motivations des gens et pas juste ce qu'ils font. Si vous voyez simplement leurs actions, ils avaient l'air très bien. Et ce n'est pas une comparaison entre un juif qui obéissait à Dieu et un païen, entre un juif et un romain. C'est une comparaison entre deux gens qui étaient juifs et qui pratiquaient la voie de Dieu comme ils le connaissaient et qui allaient dans le temple. Vous êtes des chrétiens qui mettent en pratique le christianisme, donc cela s'applique à nous. Cela pourrait être nous. Ce n'est pas une comparaison, donc, entre des gens du monde et des gens de l'Église. C'est une comparaison entre deux juifs qui pratiquaient tous les deux leur religion juive et allaient au temple. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Souvenez-vous, c'est une parabole, ce n'est pas une histoire vraie. Jésus présente une situation et dit, « J'ai connu des pharisiens qui sont comme ça. J'ai connu des pharisiens qui n'ont jamais commis l'adultère, qui sont toujours été honnêtes. » Jésus ne dit pas qu'ils ont commis l'adultère, ou il ne dit pas qu'ils ne payent pas leur dîme. Il ne dit pas qu'ils ne sont pas des gens qui obéissent à la loi. C'était vraiment des gens qui obéissaient à la loi. Si vous rentrez dans l'église de Laodicée, vous disiez « Ah, c'est une église solide, les gens sont vraiment bien, ils obéissent bien à Dieu dans leurs actions. » Il dit je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Souvenez-vous, dans Colosse, les gens à Colosse et à Laodicée jugeaient les uns les autres sur ces choses. Oh, tu ne gardes pas le sabbat aussi strictement que moi. Je n'ai pas pu tout lire, mais il y a beaucoup de descriptions que les Juifs avaient et ils se jugeaient les uns les autres pour tout un tas de standards qui sont donnés par des gens de l'Église. Ils jugeaient les autres en disant « Vous n'êtes pas aussi juste que moi parce que vous n'avez pas les mêmes hauts standards, entre guillemets, que nous. » Certaines personnes disent « Le jour du sabbat, je fais cela. » Et je connais des gens qui ne vont pas aller laisser leurs enfants nager le jour du sabbat. S'ils ont une piscine dans leur jardin, ils ne vont pas laisser les enfants rentrer dans l'eau de la piscine. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas un jugement que vous et moi devrions faire. S'ils font d'autres choses dans le sabbat, comme d'aller travailler, je peux leur dire, j'ai une raison biblique pour leur dire non, faut pas travailler. Mais vous êtes responsable devant Dieu pour votre décision si c'est bien ou pas d'aller dans l'eau d'une piscine le jour du sabbat. Et c'est à vous de le discerner, c'est selon votre conscience. Il y a des choses que personne d'autre ne peut vous juger. Les choses que nous devons parler dans l'Église, c'est les choses que Dieu dit. C'était le problème de Laodicée. C'était le problème des pharisiens. C'était tout à l'extérieur. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme. Est-ce qu'on devrait jeûner? Oui, bien entendu. Est-ce qu'on devrait l'habiller à la dîme? Absolument. C'est la loi de Dieu. Ce sont des bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas bon si vous regardez les autres et que vous disiez, ah ben lui, il ne paye pas sa dîme ou il ne paye pas sa dîme de la même façon. J'ai un meilleur travail que vous parce que, alors par conséquent, je peux payer plus de dîmes que vous. Non, tout le monde devrait payer sa dîme, ce n'est pas le problème. Mais combien on donne? Comment on donne? On ne devrait pas se juger les uns les autres. C'est toujours possible de perdre son bon travail qui nous donne des bonnes dîmes, vous savez. Cet homme faisait toutes ces choses. Et c'est pour ça, dans la parabole, Jésus suggère et prend l'exemple d'un homme qui fait toutes ces bonnes choses. Parce que le problème n'est pas ce qu'il fait nécessairement. Le problème, c'est pourquoi il le fait. Le problème, c'est comment il se considère lui-même, comment il se voit. En tant que chrétien, vous savez, il dit, cet homme-là, le pharisien, se dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se grattait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Au verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il sera justifié dans ce sens qu'il sera permis d'avoir une relation avec Dieu. Le pharisien est dans le temple, mais il ne réalise pas que le Jésus-Christ est à l'extérieur du temple et qu'il frappe à la porte. Et il dit, c'est ma maison, le temple est ma maison, pourquoi est-ce que tu m'empêches d'entrer dans ma maison? C'est exactement ce qui se passait à Laodicée. Jésus-Christ était à l'extérieur de la maison et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne savent même pas. Parce qu'ils n'ont aucun problème, ils sont justes, ils ont des connaissances, ils ont de bonnes connaissances, ils observent la loi de façon très stricte, et je me sens bien. Ils étaient en fait très tièdes dans leur approche avec Dieu, parce que leur religion était à propos d'eux-mêmes et pas à propos de Dieu. Et voici ce qu'il faudrait faire, je vais vous suggérer. Je voudrais que chacun d'entre vous preniez le temps de jeûner et de prier. Et si vous me dites, j'ai déjà jeûné deux fois cette semaine, ah, peut-être vous avez, c'est un problème, mais jeûner et prier pour demander à Dieu de vous accorder de la vraie humilité. Priez pour l'humilité, mais priez pour que Dieu vous le donne avec miséricorde. Ou peut-être vous vous réveillerez le jour suivant, littéralement tout nu et avoir tout perdu. Non, non. Demandez à Dieu de vous donner de l'humilité avec miséricorde. Nous devrions aussi étudier la Bible pour vraiment comprendre les vrais mystères de Jésus-Christ. Étudier Colossiens, quel est le mystère dont il est question ici? Jésus-Christ est ce qu'il est et nous devons arrêter de nous mépriser les uns les autres dans notre cœur. Souvenez-vous, les pharisiens ont confiance en eux-mêmes, mais ils ont un peu de mépris pour les autres qui ne pratiquent pas aussi bien. Si quelqu'un est faible spirituellement, ne veut pas dire qu'on devrait leur taper dessus. Ils ont besoin d'encouragement. Parfois, les gens ont besoin d'encouragement. Je ne dis pas que les gens n'ont pas besoin de correction. Parfois, j'ai besoin de faire ça. C'est mon travail. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pour leur bien? Parce qu'on les aime? Parce qu'on veut que tout le monde s'en aille vers le royaume, dans la bonne direction, que les gens soient restaurés avec Dieu et qu'ils sortent de leur péché? Lorsque quelqu'un pêche, est-ce qu'on garde la confidence? Parce qu'on ne veut pas que personne d'autre le sache. Et on devrait arrêter de se taper les uns sur les autres pour nos actions et pour les choses. Ce n'est pas biblique. Nous devons arrêter de faire ça. Souvenez-vous, un vieux comédien qui s'appelait... Je me souviens pas de son nom. C'était un Jeff Foxworthy, c'est ça. Souvenez-vous, si j'ai lu cela, et il a dit, j'espère que ces gens jeûnent pour ces autres gens là-bas et demandent de m'humilité à Dieu. J'espère que ma femme va commencer à étudier davantage la Bible. Et si vous commencez à penser à toutes les choses en entendant ce sermon que les autres devraient faire pour être meilleurs, peut-être que vous avez le problème de Laodicée. C'est ça le problème de l'attitude de Laodicée. Ils ne peuvent pas le voir, mais ils le voient très bien chez les autres. C'est pourquoi il faut le tourner, cette examination, sur nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu leur promet dans Apocalypse 3 au verset 21, il dit aux gens de Laodicée, Apocalypse 3, verset 21, « À celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis avec mon Père sur son trône. » Vous voyez, il est moins négatif qu'avec certaines autres églises. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a beaucoup plus de détails dans Laodicée. Pour bien comprendre le problème de Laodicée, étudiez Colossiens. Commencez à jeûner et à prier pour l'humilité. Nous avons maintenant traité l'enseignement biblique sur les sept églises. On a un autre sermon dans la série que je vais faire dans le futur où nous regarderons le contexte plus large, prophétique, de Apocalypse 2 et 3.